France Bleu Paris, les 19h. Rendez-vous demain, 19h, Émilie Mazoyer pour Décibel.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur France Bleu. On est lundi soir, alors c'est un bonheur de vous retrouver dans Décibel avec ce soir deux invités de qualité, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui ont réalisé le film dont tout le monde parle en ce moment.
Emmenez-moi au bout de la terre.
Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre, un immense biopic dont nous parlons ce soir avec ses deux co-réalisateurs, Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Et pour l'heure, on passe à l'info avec vous, Marine Logénie, bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et tous.
Les députés entrent dans le vif du sujet. Ce soir.
Oui, et débattent sur la partie recette du budget 2025, sur le texte initial du gouvernement, sans modification, après une semaine de discussion en commission. Ça promet d'être animé dans et en dehors de l'hémicycle, car du côté des collectivités locales, ça gronde aussi. On demande 5 milliards d'économies au département. Nicolas Lacroix, patron LR de la Haute-Marne, a donc décidé de mettre en vente sur le bon coin la préfecture, la sous-préfecture et d'autres bâtiments du département.
En annonçant que je rendais tous ces bâtiments sur le bon coin, c'était vraiment pour alerter les Français aussi et les prendre un petit peu à témoin. Cette ponction, elle est historique. Elle est historique et on est vraiment dans l'impasse budgétaire. On a plus de 20 départements en grande difficulté. Avec ces annonces, c'est plus de 60 départements qui ne pourront pas, pour certains, boucler le budget 2024 et qui ne peuvent pas se projeter sur 2025.
Quels services vous allez devoir remettre en question?
L'aide aux communes, l'aide au monde associatif, un certain nombre d'investissements qu'on peut faire en matière de santé. On aide des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, toutes ces aides qui sont versées par les départements ne pourront plus et vont être en cessation de paiement, tout simplement. Mmh. C'est inédit. Je le dis bien, les départements veulent bien sûr s'inscrire évidemment dans l'effort qui est demandé à tous les Français, mais pas à ce niveau-là.
Nicolas Lacroix, patron Les Républicains de la Haute-Marne, au micro d'Aurélien Accard, début des débats ce soir à 21h30. Patrick Poivre d'Arvor était visé par une plainte pour viol dès 2005. Une première plainte classée sans suite, faute de preuves. Cette femme dit avoir été violée le 14 mars 2005 par PPDA dans le bureau du présentateur au siège de TF1, juste après avoir été invité à assister au journal de 20h. L'ancien présentateur, âgé de 77 ans aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle. Amélie Oudéa-Castéra, bientôt jugée pour diffamation, les 3 et 4 décembre, devant la Cour de justice de la République. Noël Le Graët a porté plainte contre l'ex-ministre des Sports après un rapport accablant l'année dernière, estimant que le patron du foot français n'était plus légitime en raison de son comportement inapproprié envers les femmes. Noël Le Graët avait démissionné dans la foulée.
L'Ardèche fait les comptes et a bien du mal à se relever.
Oui, après l'épisode Cévenol le plus intense jamais enregistré depuis le début du XXe siècle, il y a encore de nombreuses routes coupées sur la montagne ardéchoise qui a reçu parfois près de 700 mm d'eau en moins de 48 heures, souvent de très petites communes avec donc de très petits budgets pour faire face aux dégâts. Pierre-Jean Pluvy.
Oui, Uscla des Riotors, 113 habitants. Son maire, Sébastien Bourdelis, ne sait pas s'il pourra rouvrir le camping municipal. Il a été dévasté par la crue de la Loire. Ici, un petit torrent habituellement, mais dont le débit est monté à 500 mètres cubes seconde.
Ça va être compliqué d'avoir des autorisations. Même, je veux dire, par rapport à la responsabilité, qui c'est qui en aura la responsabilité si un jour il y a une catastrophe humaine? C'est ça le problème.
Des dégâts aussi à Saint-Cirgan-Montagne, 218 habitants. Mais surtout, un des accès de la commune est fermé. La route du tunnel du Roux s'est effondrée. Une route essentielle, surtout en hiver, qui permet d'éviter les congères, comme l'explique la maire de Saint-Cirg, Karine Acassin.
Il y a tous les transports scolaires, tous les gens de la montagne qui descendent travailler tous les jours à Obna et qui remontent. Et économiquement, pour notre territoire, c'est vraiment terrible.
Et le président de l'Association des communes rurales d'Ardèche, Sébastien Pradier, lance un appel à la solidarité national.
C'est marche ou crève, je dirais, parce que ici on est au Rousse qui a 150 000 euros de budget d'investissement par an. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire peut-être 100 000 euros de travaux, mais l'échelle c'est plutôt le million, voire 2 millions. Plus personne ne pourra rien faire si on n'a pas l'aide de l'État.
Dans sa commune du Croc-de-Géoran, Sébastien Pradier a estimé les travaux à environ 300 000 euros.
Reportage Pierre-Jean Pluvy, France Bleu, Drôme-Ardèche. À l'étranger, l'OMS va faciliter un millier d'évacuations de la bande de Gaza vers l'Union européenne. Des femmes et des enfants blessés ou malades, annonce l'Organisation mondiale de la santé, qui insiste sur la nécessité de maintenir le dialogue entre les deux camps. Les Français ont répondu présent il y a un an. Vous vous en souvenez peut-être, le président des Restos du Cœur appelait à l'aide alors que son association était dans le rouge avec un déficit prévisionnel de 35 millions d'euros. Appel largement relayé par France Bleu et entendu. Donc depuis, les dons ont afflué et ont permis aux Restos de se remettre à flot. L'association enregistre même un excédent de 22 millions d'euros. Même s'il faut donc rester prudent sur la prochaine campagne, France Bleu, radio partenaire des Restos, on le rappelle Émilie, hein, la billetterie du spectacle des Enfoirés est ouverte.
Oui.
Et les concerts auront lieu en janvier prochain à Montpellier.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
La météo de demain, la journée commence sous les nuages de l'Occitanie à l'Alsace avec des pluies plus ou moins fréquentes, de belles éclaircies l'après-midi des Pays de la Loire aux Ardennes, le soleil est plus timide sur l'Aquitaine, un temps humide résiste de l'Auvergne à la Franche-Comté, proche de la Méditerranée, le ciel est voilé. Les températures, les minimales, elles affichent 8 à 12 degrés au nord, 10 à 14 dans le sud, jusqu'à 15-18 degrés en bord de Méditerranée. L'après-midi, comptez entre 15 et 18 degrés sur la moitié nord, 17 à 21 degrés plus au sud et vous aurez jusqu'à 25 degrés dans le sud-est.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel, Émilie Mazoyer.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur France Bleu, c'est Décibel. Et vous me manquez trop le week-end, je vous jure, le lundi c'est la fête. Et alors c'est doublement la fête ce soir, puisque en plus de nos invités exceptionnels, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, pour le film dont tout le monde parle en ce moment.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mers.
Non seulement ces deux co-réalisateurs, donc Mehdi Idir, Grand Corps Malade, viennent nous parler de Monsieur Aznavour, mais en plus, ils offriront aux gagnants du Blind Test des invitations pour aller voir le film qui sort mercredi. Des invites pour aller voir Monsieur Aznavour au cinéma, ça vous dit? Alors inscrivez-vous au Blind Test dès maintenant. Le numéro de téléphone 0810 055 056 0810 055 056. C'est Sadika qui vous attend au standard. Allez-y, appelez pour vous inscrire. Et puis ce soir, comme tous les lundis, à partir de cette semaine et jusqu'au mois de février, on reçoit tous les lundis l'élève sortant de la Star Academy. Alors cette semaine, la première sortante de cette promo 2024 de la Starac, c'est une jeune belge fort sympathique qui s'appelle Maëlys, hein, vous l'avez peut-être vue, c'est la petite jeune fille avec les lunettes et les cheveux frisés qui avait chanté Amy Winehouse, voilà, elle est sortie samedi soir du château et on passera un petit moment avec elle tout à l'heure à 20h. Et puis sinon, dans Décibel ce soir, nous croiserons un groupe des années 80 qu'on aime beaucoup qui s'appelle Talk Talk, il y aura Jeanne Moreau qui chante aussi, un petit duel autour du silence. On va aussi écouter la nouvelle chanson de Louane. Et puis dans le festival idéal, il y aura les Moody Blues, il y aura Sinclair et il y aura Robbie. Robbie Williams et 100 000 Anglais bourrés qui pleurent en chantant Angel, c'est magnifique. Et ça sera tout à l'heure dans le festival idéal. C'est comme ça qu'on termine l'émission tous les soirs avec de la musique live, des versions en concert de chansons que vous aimez et que vous allez peut-être redécouvrir. Le festival idéal de Décibel, c'est vers 20h45. Et avant d'accueillir Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour vous parler de Monsieur Aznavour, comme tous les soirs, on attaque avec la chanson Voyage. On va faire un petit tour au Mali, à Bamako, très exactement. Et puis on fait un petit voyage dans le temps aussi, puisque nous sommes en 2017. C'est l'année de sortie de l'album de M, L'âme au Mali, et c'est lui qui vous invite au bal de Bamako avec Fatoumata Diawara et Oxmo Puccino.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. J'étais dans la
comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme. le mal y danse dans mon âme. Oh, ni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
Oh, ni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Bamako, il y a M sur ce titre, accompagné par ses potes Fatoumata, Diawara, Oxmo Puccino, et sur l'album L'Amomali, on retrouve aussi Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, plein de musiciens maliens exceptionnels, et puis d'autres comme Seu Jorge, le Brésilien, il y a Nekfeu, il y a Youssou N'Dour. C'est un disque qui est sorti en 2017 et qui est toujours extrêmement recommandable.
Toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel.
Et avant d'accueillir mes invités Mehdi Idir et Grand Corps Malade, je vous mets au boulot les amis, comme tous les soirs, c'est le duel, deux chansons, un thème, et à vous de choisir. C'est difficile parfois de les départager. Le thème de ce soir, c'est le silence. Enjoy the silence par Dépêche Mode. Ou The Sound of Silence de Simon et Garfunkel.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
Oui, c'est deux salles, deux ambiances, mais c'est un petit peu le but aussi quand on fait un duel, c'est de vous donner des billes pour choisir, hein, si vous avez plutôt envie de pleurer à chaudes larmes ou de danser. Dark, mais danser quand même. Dépêche Mode ou Simon et Garfunkel. Pour voter, rendez-vous dans la story de Décibel. Oui, nous sommes sur Instagram. Notre compte, c'est Décibel France Bleu. Décibel avec un S. Encore malade, Mehdi Idir, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Vous avez réalisé le film dont tout le monde parle cette semaine, il sort mercredi.
La bohème, la bohème, ça voulait dire...
Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle titre. C'est le troisième film que vous faites ensemble, tous les deux. Le premier, c'était Patient, hein, l'adaptation de votre roman autobiographique, Grand Corps Malade. Le deuxième, La vie scolaire, chronique sociale de la vie au collège. Voilà, c'était en 2019. À chaque fois, il y a eu des nominations au César, il y a eu beaucoup d'entrées, etc. Mais alors, ce troisième film-là, ça fait des mois qu'on en parle. Vous vous attendiez déjà à autant d'envie du public, de voir la vie d'Aznavour sur grand écran.
On espérait, vu le thème, voilà, Aznavour est tellement une idole en France et dans toute la francophonie à travers le monde. Et avec Tahar Rahim aussi, qui est quand même pas le premier acteur venu, il y a évidemment une attente, une envie. Après, tant mieux si cette envie, elle prend forme, si les journalistes, les gens qui ont vu un peu le film avant tout le monde, il y a une petite excitation.
Vous sentez
plutôt,
que ça monte, non?
On le sent.
Ça monte surtout pour nous aussi.
C'est ça. C'est bien que là, on est plein de taf en ce moment. Comme ça, ça permet de pas trop penser à ça. Mais c'est vrai que ça a plus d'ampleur que sur nos films précédents. Ça, on le sent. On peut comparer.
Il est très, très attendu, ce monsieur Aznavour. Alors que moi, j'ai eu la chance de voir la semaine dernière. Et je ne peux que vous le recommander. Il sort donc après-demain. Vous disiez, Mehdi, dire que vous avez du boulot. Comme ça, vous n'avez pas le temps de stresser. Mais en même temps, tout le monde vous parle évidemment de ce film. Vous faites ce qu'on appelle une tournée d'avant-première. Ça veut dire que vous allez dans plein de villes, en France, en Belgique, en Suisse, pour présenter le film. Est-ce qu'ensuite, vous prenez le temps de parler avec les gens, savoir ce qu'ils en ont pensé?
Oui, alors on fait des débats après le film, des questions-réponses après le film. En général, on reste longtemps, on aime bien ça. En fait, quand t'es en tournée d'avant-première, il y a deux solutions. Soit tu fais des intros de film et les gens l'ont pas vu, tu expliques un peu ce qui... Mais tu sens t'auto-spoiler. Nous, on préfère faire des fins de film et parler avec les gens. Et puis après, on reste un peu avec eux, ils prennent des photos et puis on discute encore avec eux. Ça, c'est cool, ouais. Ça permet déjà de prendre le pouls un peu, de savoir ce que pensent les gens du film.
Et alors, il est comment le pouls? Il bat bien?
Eh ben, il bat bien parce que c'est vrai qu'on rentre sur le générique de fin et que la lumière s'allume. On voit pas mal de dieux humides.
Oh oui, moi j'ai pleuré, j'avoue. Ah oui, c'est très, très émouvant.
Donc on sent que c'est émouvant, on sent que les gens... après, nous font des très beaux accueils, des très belles ovations quand on est face à eux. Donc c'est vrai que c'est encourageant, là, toutes les salles où on a vu des gens qui venaient de voir le film, ça nous donne plutôt confiance et on espère que, que les gens, les autres vont penser pareil.
Qu'est-ce que vous allez faire mercredi, jour de sortie du film? Je le disais tout à l'heure, c'est votre troisième film ensemble. Est-ce que vous êtes un peu superstitieux? Est-ce que vous avez pris des petites habitudes, un petit rituel, quelque chose?
Là, pour le coup, on a pas mal de promos encore. Donc là, il n'y aura pas le temps d'avoir des petites choses superstitieuses. On va faire la promo. Et puis après, il y a la tradition. On se retrouve quand même tous le soir avec le distributeur, avec les producteurs, avec les principaux acteurs. C'est la fameuse soirée chiffre. On attend un peu les premiers résultats de la journée.
On téléphone dans les grands multiplexes.
Voilà, pour voir un peu si le film démarre bien.
Si je t'ai pas parlé de ça, ils ont une tradition chez Pathé. Ils font appeler les réalisateurs et les acteurs quelques cinémas pour avoir les chiffres.
Ah ouais, je savais pas.
Les gens, ils pensaient qu'on avait toujours fait ça. Je me dis, mais non, c'est nouveau, ça, c'est super. Du coup, ils veulent qu'on soit là.
C'est notre premier film chez
Pathé,
donc on va découvrir des nouvelles.
Ah, mais c'est drôle. Donc, si vous travaillez dans un cinéma, mercredi soir, vous allez peut-être avoir un coup de fil. Bonjour, c'est Grand Corps Malade et Mehdi Idir. On voudrait savoir.
Bonjour, c'est Tahar Rahim.
Ou bonjour, c'est Tahar Rahim.
Alors, vous avez fait combien d'entrées?
Alors, on parle beaucoup de Tahar Rahim qui, il est vrai, si vous avez vu ne serait-ce que la bande-annonce, vous vous en rendez compte, est absolument bluffant en Charles Aznavour. Ceci dit, mention spéciale, parce que quand on parle de la carrière d'Aznavour, forcément, on tombe sur Charles Trenet.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Et sur Piaf.
Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous
second rôle dans le film, mais pas dans la vie d'Aznavour. Hein. Bravo pour ce casting, parce qu'en fait, tous les seconds rôles sont incroyables aussi. Tout le monde dit Tahar Rahim, à juste titre. Mais ça a été très long pour vous de trouver comme ça des gens qui sont parfois des copies conformes. Enfin, Trenet, il a la tête de Trenet. Hein.
C'est vrai qu'il lui ressemble bien. Et puis, bon, Trenet est un petit rôle. Il apparaît deux fois.
Ouais.
Edith Piaf est un rôle très important dans le film, parce que très important dans la vie d'Aznavour. Il a été son porte-valise. À la fois, elle lui a mis le pied à l'étrier.
Elle l'appelait mon génie con.
Ouais, c'est ça. Tout est là. C'est-à-dire qu'à la fois, elle l'aimait, elle l'appelait mon petit génie parce qu'elle lui reconnaissait beaucoup de talent. Et en même temps, elle aimait ça l'amusait de le rabaisser de temps en temps. Elle était évidemment dure, un peu tyrannique et en même temps très drôle. Et c'est vrai que Marie-Julie Baupe, qui joue incroyablement Edith Piaf.
Génial.
A pris ce côté-là. Alors nous, ce côté humoristique chez Piaf était assez présent au scénario, parce que Aznavour, Charles, disait souvent qu'elle était avant tout très drôle et que quand on était avec elle, bien sûr, elle était dure, mais tout le monde se marrait. Donc c'est vrai qu'on a pris ce biais-là dans la relation entre Charles et elle, qui n'était pas forcément le trait le plus vu dans la môme, parce qu'évidemment, jouer Piaf derrière Marion Cotillard, c'était quand même pas rien, mais du coup, c'est un angle qui avait été moins exploité sur la môme, c'est ce côté très, très drôle, très vaneuse, en fait, de la part d'Edith Piaf.
Oui, et ça fait partie des choses que moi, j'ai apprises en voyant le film. Je me dis, mais elle est très marrante, Piaf. Donc voilà, vous allez apprendre des choses, même si vous pensez tout savoir, et puis, parce que aujourd'hui, cette année, c'est les 100 ans de la naissance de Charles Aznavour, donc en fait, il y a toute une partie de sa vie qui date d'il y a très longtemps, forcément, par définition, et dont on ne parle pas, ou peu, ou qu'on a oublié. Toutes ces années de galère, par exemple, ce n'est pas la bohème, quoi, c'est la méga galère pour lui. Toute la partie aussi, vous savez, cette année, on a beaucoup parlé de Missak Manouchian. En fait, il était caché chez les parents de Charles Aznavour. Et Charles, il partageait ses repas avec des résistants. Vous avez réussi à tout mettre dans le film, en fait. Comment vous avez fait ?
Ça a été le plus dur, parce que la première version de scénario qu'on avait faite, le film aurait fait 5 heures. Et un film de 5 heures, techniquement, c'est très très chiant. Donc il a fallu réduire, c'était ça le gros du boulot.
Réduire, mais pas tronquer des gros bouts de sa vie.
C'est ça, on sentait, nous, en fait, en étudiant Charles, en regardant toutes ses interviews, tous ses documentaires, au bout d'un moment, tu arrives à te rendre compte ce qui a été très important pour lui, ce qui revenait souvent en interview. Et Piaf était dedans. Le passage sur la guerre, la résistance avec les Manouchians revenait souvent. Donc, nous, on a su ce qui était aussi important pour lui. Et ça a été magnifique à faire, parce que nos précédents films, c'était des films contemporains. Et là, il a fallu se renseigner, il a fallu apprendre des choses, lire des livres, parler avec des spécialistes. Donc, c'était magnifique. Faire lire le scénario à un historien pour pas se tromper. Oui. On a appris tellement de choses, c'était magnifique.
Je pense que sur la vie de Charles, comme vous disiez, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre beaucoup de choses, parce que il y a plein de gens qui connaissaient pas toutes les années galères de Charles quand il avait 20 ans, quand il a traversé la Deuxième Guerre mondiale, en effet, dans des gros réseaux de résistance. Et puis après, justement, il a commencé en duo avec un monsieur.
Et quand il part au Canada aussi.
Voilà, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Roche, qui est joué magnifiquement par Bastien Bouillon. Et ils ont fait un binôme, vraiment, à la scène, comme dans la vie de tous les jours, parce qu'ils étaient 8 ans ensemble. Et il y a une partie du film qui est vraiment un film de potes, où ils vont à vélo sur les routes de France, ou de outre-Atlantique, essayer de faire leur métier. Et toutes ces années-là, je crois qu'elles sont très peu connues. Et Charles, on a eu la chance, avant qu'il nous quitte, de discuter un peu de ce film avec lui. Et c'est là-dessus qu'il avait envie de mettre l'accent. Il voulait vraiment parler de l'avant-succès et de toutes ces années galères.
C'est ça. Donc vous allez le voir, évidemment, dans Monsieur Aznavour, vous ne le verrez pas juste galérer. On voit justement comment le succès arrive, comment le succès enfle. Et c'est hyper réjouissant, parce qu'en fait, comme on l'a vu vraiment dans la galère, on le voit petit garçon magnifique. Et on est en totale empathie, en fait, avec lui. On a envie que ça marche. Et quand enfin ça marche, on est heureux, on a l'impression que c'est nous. Monsieur Aznavour, on va écouter de la musique, puis après on va continuer à parler de votre film, mais d'y dire grand corps malade. Je me voyais déjà, je trouve que c'est pas mal, parce que si j'en crois votre film, et j'ai très envie de le croire, c'est une chanson vraiment pivot pour Aznavour, ça.
Oui, bien sûr, c'est la chanson qui lui a permis de basculer. La première fois la quasi première fois où il a eu une vraie standing du milieu parisien. Et du coup, ça a été un succès. Il a vendu énormément de singles, et c'est ce qui lui a permis de transformer l'essai. Ouais.
C'est ça. Le mot tube n'existait pas à l'époque, mais c'est son premier tube. Charles Aznavour, Je me voyais déjà, vous êtes sur France Bleu.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Je me voyais déjà à Charles Aznavour, une chanson alors pas complètement autobiographique puisque là c'est un vieux chanteur qui a jamais vraiment percé, mais n'empêche que au moment où il la chante à Paris à l'Alhambra ou à l'Alcazar,
je sais jamais. À l'Alhambra.
L'Alhambra. Et ben, je suis pas parisienne, désolée. Il y a ce moment où il chante cette chanson et où enfin le public se lève et c'est un moment pivot du film. Monsieur Aznavour, Mehdi Idir et Grand Corps Malade qui ont réalisé ensemble ce film sont les invités ce soir de Décibel. Moi je vous encourage à aller voir Monsieur Aznavour. Si vous êtes très fan de musique, vous allez pouvoir voir aussi des moments où des chansons sont jouées pour la première fois. C'est le cas des comédiens.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens.
Et essayer de comprendre comment lui sont venus des moments magnifiques comme hier encore.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie.
Et pour qui vraiment chantait-il Formi Formidable?
You are the one for me, for me, for me formidable.
Monsieur Aznavour, alors vous nous l'avez dit, Mehdi Idir et Grand Corps Malade, vous avez rencontré Charles Aznavour à plusieurs reprises, avant même, je crois, qu'il y ait ce projet de film. Ce projet de film, c'est son projet, c'est votre projet, c'est un projet commun, comment c'est né ?
C'est un projet un peu familial, puisqu'il avait parlé de ce projet et il l'avait confié à Jean Rachid. Jean Rachid qui est son gendre et qui est mon producteur en musique depuis le début, coproducteur du film. Et donc voilà, c'est né comme ça et tout de suite Jean Rachid avait parlé de nous, de Mehdi et moi, comme réalisateur. Il avait évoqué l'idée et comme Charles avait vu notre premier film Patient, il nous avait validé en tant que réalisateur. Donc du coup, c'est vrai que ça donne quand même une confiance et une force de se dire qu'on ouais. avait été validé par le maître.
Oui, parce qu'en plus, il en avait fait quelques-uns des films.
Il connaissait peu le cinéma, ouais, il a fait une cinquantaine de films.
Ouais, il connaissait le métier.
Mais on le connaissait avant, j'ai eu la chance, moi, le privilège d'écrire pour un duo à deux. Il m'avait confié l'écriture de notre duo. On avait fait un duo ensemble, il était venu me voir en concert. Enfin voilà, c'est vrai que grâce à Jean Rachid, on se côtoyait un petit peu depuis quelques années.
Est-ce qu'il était d'accord? Vous l'avez dit tout à l'heure, Mehdi, dire c'était un peu votre boussole quand il racontait sa vie, voir qu'est-ce qui était important pour lui. Mm-hmm. Forcément, c'était des éléments qui allaient être dans le film. Mais par exemple, le côté super beau gosse, pas très fidèle. Même ça, il était d'accord pour en parler, parce que ça aussi, on n'en parlait jamais. Enfin, moi, pour le coup, j'ai 44 ans. Ça fait 44 ans que j'écoute Aznavour et jamais je m'étais rendu compte que c'était un méga beau gosse en fait. Donc il y avait rien de tabou.
En fait, on n'a pas eu le temps d'aller jusque-là avec lui. On en a parlé avec la famille et qui étaient pour. C'est-à-dire qu'on a eu de la chance que très vite, ils aient compris, quand on leur a fait lire le scénario, que c'était important pour le scénario, qu'on parle de ses défauts. Et nous, on appréhendait un petit peu en leur faisant lire, en se disant peut-être, imagine s'il commence à tiquer sur tel ou tel aspect de sa vie. Et finalement, on se dit, oh, mais c'est très bien que vous parliez de ça. D'ailleurs, on a d'autres anecdotes sur ça. Et puis, ils nous ont parlé d'autres choses. Donc là-dessus, il n'y a eu aucun tabou avec la famille. Sinon, je pense que ça aurait été compliqué. Franchement,
c'est une partie importante,
fin,
en fait, du personnage.
Bien sûr, ouais.
Ouais, mais en plus, on s'est appuyé sur plein de livres, mais notamment deux autobiographies, voilà, ouais, validées, écrites par Charles, où il n'hésitait pas à faire pas mal d'allusions sur cette période-là et sa jeunesse un peu dynamique.
C'est joliment dit.
Dynamique.
C'est ça, beaucoup de dynamisme chez Charles Aznavour.
Des tournées très dynamiques.
C'est ça. Et alors, il y a des critiques aussi. Il y en a un journaliste, bon, qui prend pour tout le monde, hein, évidemment, vous n'en montrez qu'un dans le film, qui écrit des horreurs sur lui. Je n'avais pas conscience que c'était aussi violent ce que les gens écrivaient sur lui à ses débuts. Alors, il était complexé physiquement, parce que pas très grand, pas très costaud, et un grand nez. Alors, il a fait refaire son nez, je crois, c'est Piaf qui lui a offert, c'est ça. Les journalistes ont écrit qu'il était monstrueux.
Ouais.
Ça, c'est vrai.
Ouais, tout est vrai. On a compilé un peu les pires critiques qu'il a reçues. Et encore, il y en avait beaucoup d'autres. Mais vraiment, c'était d'une violence en nous. C'était même raciste.
C'était très raciste.
Il y avait des remarques extrêmement racistes. Et oui, ça permet de relativiser les choses quand il y a des critiques dans la presse. À l'époque, c'était extrêmement violent.
Il était rancunier ou pas?
Ouais, il était rancunier. Bon, je fais une petite anecdote du film. Je spoil pas grand chose parce que c'est un aspect, un petit détail, mais il lisait beaucoup la presse. Il lisait toutes les critiques. Ça le rendait fou. Et il tenait, une fois qu'il s'est dit, là, je tiens un spectacle, un très bon spectacle, à inviter. Il demandait à inviter spécialement tous les journalistes qui avaient dit du mal de lui. Et souvent, après, quand il les croisait, il disait qu'il avait jamais lu la presse, qu'il était pas au courant.
Trop fort. Allez, restez bien sur France Bleu, 19h31. J'allais dire Charles Aznavour est là. Il est presque là parce qu'on parle de lui. Et quand on regarde ce film Monsieur Aznavour qui sort mercredi, je peux vous dire que voilà, on sent sa présence. Mehdi Idir, Grand Corps Malade, qui ont co-réalisé, co-écrit le film sans nos invités. À tout de suite.
Embarqué pour le Vendée Globe avec France Bleu. Vivez une incroyable aventure humaine. Le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Top départ le dimanche 10 novembre à 13h02. Venez profiter du village d'animation au Sable d'Olonne. Plus d'infos sur vendeeglobe.org et sur francebleu.fr.
Paprec, engagé dans le Vendée Globe depuis 24 ans, est le leader français du recyclage, acteur majeur de la production d'énergie verte et de la gestion des déchets.
Ça ne compte pas pour du beurre.
Pour ceux qui font du bon beurre, non, ça ne compte pas pour du beurre. Avec les vaches dont on prend soin, que l'on nourrit pour faire du lait, avec un savoir-faire unique, non, rien ne compte pour du beurre.
Merci à vous, agricultrices, agriculteurs et salariés du monde agricole, qui travaillez chaque jour à rendre meilleure la vie des Français. FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
Toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel, Émilie Mazoyer.
Il est 19h32, Décibel, c'est en direct sur France Bleu jusqu'à 21h. Je vais dire France Bleu combien de fois dans cette phrase? J'ai trop peur, je vais l'arrêter. Grand Corps Malade, Mehdi Idir, merci d'être avec nous ce soir.
Merci.
Monsieur Aznavour, c'est votre film, 3 ans de boulot, hein?
C'est ça.
Waouh. Et ça sort dans 2 jours, ce mercredi. Allez applaudir Monsieur Aznavour au cinéma. T'as Rahim dans le rôle titre, mais on en parlait tout à l'heure, un casting hyper réussi, hyper brillant sur absolument tous les rôles. Des périodes très très différentes de la vie d'Aznavour. On va des années 30. On s'arrête quand ?
Milieu des années 70.
Ouais, c'est ça. Donc ça fait quand même
Ouais, on est une bonne 4 décennies, quoi.
Ouais, c'est ça. 4 décennies où, bah, tout va changer pour lui, mais tout va changer un peu partout dans le monde aussi. Et c'est encore extrêmement pertinent aujourd'hui, Charles Aznavour. La preuve, Grand Corps Malade, sa bohème vous a parlé, puisque pour la réédition de votre album Reflet, pour lequel on s'était vu l'an dernier, qui s'appelle Plus de Reflets, qui est sorti la semaine dernière, vous avez sorti cette chanson qui s'appelle À chacun sa bohème. Est-ce qu'on peut dire que c'est un duo, Comment vous le définiriez ?
Ce serait presque prétentieux. Oui, j'ai eu la chance d'entendre résonner.
En même temps, vous avez fait un vrai duo avec lui, donc vous pouvez.
Ouais. Et là, oui, il y a la belle voix de Charles Aznavour qui chante la bohème dans le refrain, mais le reste de la chanson, c'est ma bohème à moi, c'est pas une reprise.
Non.
C'est mes débuts artistiques à moi, mes souvenirs, ma nostalgie de cette période-là. Donc évidemment, je reprends le thème de la bohème.
À chacun sa bohème. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et c'est Grand Corps Malade.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux, trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire on est heureux. La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation, presque comme une revanche. Scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères. Sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire on est heureux.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire. Et ce pincement extrême, la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
À chacun sa bohème, Grand Corps Malade, et cette évocation de la nostalgie d'Aznavour dans sa bohème à lui. Qu'est-ce que vous vous trouvez tous les deux comme point commun avec lui ? Je me dis que pour se lancer dans un biopic, il faut avoir de l'empathie pour son personnage, pas juste de l'admiration.
Alors moi, je dirais dans un premier temps la taille, déjà, c'est pas mal. Un appendice nasal aussi, assez présent, je dirais.
C'est vrai que ça rapproche.
Oui, mon gars. Non, je dirais cette envie de réussir les choses, le fait d'être tombé à un moment donné par hasard sur une passion et que cette passion dicte ta vie à partir de ce jour-là, pour le reste de tes jours, j'espère. Et de jamais essayer de jamais lâcher l'affaire pour continuer à essayer de vivre de cette passion. Après, il y a aussi sa relation avec sa sœur. Voilà.
La famille archi importante, ses parents, sa sœur.
Exactement.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est très beau. Hein.
Voilà, ça ressemble un peu à ce que je peux vivre avec ma sœur Nilia, que je salue au passage.
Bonsoir Nilia.
Énormément de choses en commun, en fait. Mais c'est pas venu tout de suite, en fait. C'est venu en étudiant, en écrivant le scénario.
On se dit, ah tiens...
C'est ça, exactement. Il y a des ponts avec notre vie, sur sa relation avec Pierre Roche au début. On s'est un peu inspiré de nos relations, de notre relation, de nos vannes, de notre humour. Ça nous a beaucoup aidé. Et toi, Fabien ? Je fais des relances.
Oh là là, mais j'adore. L'invité parfait, ouais, mais Didier, il fait les relances et tout.
Tu annonceras la pub tout à l'heure, okay, s'il te plaît.
La météo, ce sera possible vers 20h. La okay. France veut savoir. Hein.
Ok, ok. Est-ce par contre, je suis en freestyle, je dis ce que je veux. Okay.
Non, est-ce qu'il y a une empathie? Alors, si en plus, oui, dans le cercle familial, vous l'avez connu.
Oui, et puis après, bien sûr, c'est un artiste qui fait de la scène, qui écrit des textes. Moi, ouais. Évidemment, à mon niveau, bien sûr, loin de son niveau à lui, ben oui, j'écris des textes, c'est ma matière, c'est ma discipline à moi. Donc évidemment, en tant qu'auteur, je me retrouve là-dedans. Je fais de la scène aussi. Moi aussi, je fais des tournées. Et c'est notamment ces questions de dire, voilà, comment on peut rendre compatible une tournée, une carrière, une envie d'aller plus loin avec une vie de famille. Ouais. Puisque c'est un vrai sujet chez lui, on l'a pas épargné sur ces sujets-là, où on voit presque voilà, ces sacrifices qu'il a fait, presque cet égoïsme pour réussir. Alors évidemment, ces questions-là se posent aussi pour moi à un autre niveau, c'est-à-dire que moi, bon voilà, je ferais pas les mêmes choix, je veux pas ne pas voir grandir mes enfants,
mais c'est un sujet,
mais c'est des sujets, c'est quand tu es artiste, que t'as envie de réussir, ça prend un temps considérable, ça prend un temps qui est différent d'un métier qui n'est pas artistique, c'est pas juste de 9h à 18h, ça, tu pars des fois voilà pendant une semaine, pendant tout un week-end, tu vois pas. Donc c'est voilà, tout ça c'est quand même des questions qui nous rapprochent, même si on n'a pas forcément les mêmes réponses.
Oui, alors c'est Tahar Rahim qui chante dans le film. Alors là c'est pas lui, c'est Aznavour, hein, mais... Souvenez-vous comme c'est dur à chanter, quoi.
Au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...
Il chante dans des théâtres, il chante sur scène, il chante quand il est au piano, en train de composer, etc. Il y a plein de scènes où on l'entend chanter, et il chante drôlement bien, enfin même la manière dont il parle. C'était obligatoire pour vous de trouver un comédien qui allait pouvoir aussi chanter, ou bien c'était la bonne surprise en plus, c'est-à-dire non seulement il est très fort, mais en plus il chante?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que nous on voulait que on voulait pas qu'il chante en playback, parce que non. ça se voit le playback, tu le sens à l'écran, et du coup ça te détache de ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Du coup on a Tahar a commencé très très tôt à travailler, voilà, 6 mois avant il prenait des cours de chant, aussi des cours de piano à raison de 8 heures par jour. Et puis au bout d'un moment, quand on a commencé à la première semaine, on avait tout de suite une scène où il devait chanter, et avec Fabien on s'est regardé, on s'est dit mais ça fonctionne. Ça sonne super bien. Habituellement, dans les biopics, t'as un imitateur qui est là. Nous, pour tout te dire, on n'aimait pas trop son travail. On s'est dit, putain, comment on va faire? Et finalement, on s'est rendu compte que Tahar, dans les basses, c'est très extrêmement proche de ce que pouvait faire Charles. Et à force de travail, il s'est amélioré au fur et à mesure du tournage, parce qu'il chantait quasiment chaque jour. Et en plus, il prenait des cours à côté. Donc forcément, son niveau a augmenté. Oui. Du coup, on a tout réenregistré vers la fin. Et après il y a du mix. Ce qui est intéressant, c'est que Fabien, au lieu de prendre des mixeurs habituels qui travaillent dans le cinéma, qui travaillent sur des films, là il a emmené des mixeurs de la musique, du coup qu'on a l'habitude de, parce que maintenant sur n'importe quel album les voix sont traitées, voilà, tu peux arranger, du coup sur les aigus on a rajouté ça pour donner une couleur plus aznavourienne et que ça ressemble un peu plus, voilà.
Bah c'est bluffant. Il était heureux d'arriver à ce résultat-là, Tahar Rahim, ouais, de réussir à chanter aussi bien.
Imagine, pendant 6 mois, il a pris des cours de chant à raison de 6 à 8 heures par semaine. Donc, quand il arrive sur le tournage et qu'on voit tout de suite que ça va marcher, que ça y est, il tient le timbre d'Aznavour, il atteint les notes qui sont imposées par les chansons, et on lui a donné pas mal de chansons à chanter.
Ouais, il y en a beaucoup.
Donc, bien sûr qu'il était très fier et très heureux de pouvoir aller au bout de son rôle. Il pouvait incarner Aznavour jusqu'au bout, puisqu'en plus, c'est lui qui chante. C'est quand même la classe.
Et puis surtout, lui, c'était un gros sujet, évidemment, pour lui, le fait de chanter. Donc, il avait son petit cahier avec sa liste de morceaux. Et à chaque fois, il était très content. Il barrait, ouais, ça, c'est bon, ça, on l'a rentré. Il était très content. Et vers la fin, on se regardait avec Fabien. On dit, bon, maintenant, il va falloir aller le voir pour lui dire, bon, on va tout recommencer, en fait, finalement. Mais évidemment, cet art, c'est le plus gros bosseur avec lequel on ait pu travailler. Il a une force de travail exceptionnel. Évidemment, il n'a pas rechigné, il a dit oh, allez, ok, c'est parti. Il était très content de le faire.
Et il brille vraiment dans ce film, Monsieur Aznavour. Alors, j'espère vous avoir donné envie d'aller le voir. Vraiment, on passe un moment dingue et on traverse voilà, toute l'histoire de Charles Aznavour. Mais encore une fois, cette année, c'est les 100 ans de sa naissance. Donc, on traverse aussi un bon gros morceau d'histoire de France. Et c'est assez fou de se dire je vais aller voir un film sur le mec qui chante oh, les comédiens, j'adore la bohème. Et en fait, on voit une descente de nazis dans un appart à Paris. Enfin, voilà, il s'est passé tout ça dans sa vie. Et enfin, c'est chouette que vous ayez réussi à rappeler ça. Dernière question, parce que je suis un peu curieuse. Sa famille, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu le film ?
On a eu la chance d'être très accompagnés par la famille. On leur a montré déjà un peu le scénario. On les a pas pris par surprise. Ils savaient de quoi on parlait. Katia, la dernière fille d'Aznavour, était très souvent présente sur le plateau. Elle nous donnait plein de petits conseils, de petites astuces sur l'esprit, sur la psychologie de son père. C'était intéressant. Une fois, elle est venue voir tard entre deux prises. Elle a dit, attends là, je me permets de te déranger, mais je te le dis. Là, j'ai l'impression de voir mon père. C'est incroyable. Donc ça donne quand même beaucoup de confiance pour tout le monde. Et, voilà, les enfants ont vu le film et ils ont été très émus. Ils ont visiblement reconnu leur père et ils aiment beaucoup le film. Donc, pour nous, c'est une première grande fierté.
Bravo à tous les deux. Mehdi Idir, grand corps malade. Finalement, hein, entre patients, la vie scolaire et Monsieur Aznavour, vous savez filmer la vraie vie. Ça, on peut le dire. Peut-être plus tard, vous ferez de la science-fiction, mais là, vraiment, on est dedans. Bravo à tous les deux et on croise les doigts. On dit même merde hein, pour mercredi. Et par avance, une excellente soirée ciné-chiffre à vous mercredi soir.
Merci.
Salut, messieurs.
Merci beaucoup.
Décibels, toute l'actu musicale est sur France Bleu.
Et allez, je vous propose de découvrir une jeune Belge qui s'appelle Rory, R-O-R-I. Elle aime le rock, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais il y a elle. Et je vous la recommande, elle vient de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Jalousie.
Comment tu fais toi pour que ça semble aussi facile? T'as l'air heureux sans faire d'efforts et t'es tranquille. Comment tu fais pour jamais passer pour un débile? Dis-moi c'est quoi ton secret? Comment je fais moi pour que ça devienne aussi facile? Je sens que ce film pourrait se finir en tragédie. Pour l'instant tout ce que j'ai tenté ça semble inutile. Dis-moi c'est quoi ton secret? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix? T'as l'air tellement sûr de toi. Pourtant pourquoi je te crois pas? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix? Peut-être que j'arrête de mater toutes tes photos. Plus je me compare et plus je deviens parano. Je me sens moche et je me trouve que des défauts. T'existes pour du vrai ou c'est pour du faux? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix? T'as l'air tellement sûr de toi. Pourtant pourquoi je te crois pas? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix?
Alors, elle rigole pas, hein. J'aime beaucoup Rory, R-O-R-I, c'est comme ça que ça s'appelle, et la chanson Jalousie, Rory, qui est toute nouvelle, hein, qu'on découvre en ce moment en France, une jeune Belge, qui va donner un concert à Sannois, en région parisienne, dans le 95, le 6 décembre prochain. Nous, on a eu la chance de la voir à Rock en Seine, elle jouait le même soir que Lana Del Rey. Alors c'était impressionnant pour beaucoup de gens, mais elle s'est pas démontée, elle a dit non, moi j'y vais, je suis contente et tout, et elle s'est jetée sur scène. Et voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses, talent à suivre, Rory.
Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu.
It's my life, don't you forget. Tout le monde connaît cette chanson de Talk Talk par cœur, évidemment, mais il y en a d'autres. Et c'est pas Elisa qui va nous dire le contraire, Elisa qui est notre auditrice programmatrice ce soir. Salut Elisa.
Salut Émilie.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien. Tu as aimé mon petit karaoké ?
Oui, tout à fait, c'était très bien.
Non, mais c'est vrai que souvent, voilà, tu as des groupes avec une chanson vraiment emblématique. Pour Talk Talk, c'est vraiment It's My Life. Mm. N'empêche qu'il y en a d'autres.
C'est ça, tout à fait.
Pardon, je me permets, mais tu es plus jeune que le groupe Talk Talk. Comment es-tu entrée en contact avec leur musique ?
C'est grâce à mes parents qui ont une très bonne culture musicale, qui sont passionnés de musique. Et puis même moi, j'aime bien la musique des années 80-90. Et je suis même nostalgique de cette époque-là, alors que j'y ai pas vécu. Enfin, je suis de la fin des années 90. Mais vraiment, j'aurais aimé connaître et voir Talk Talk en concert. Parce que c'est vrai que malheureusement, Marconis nous a quittés il y a 5 ans maintenant. Et il manque parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux.
5 ans ? Mon Dieu. Ouais. Je vais dire un truc de mamie, hein, mais le temps passe beaucoup trop vite. Hein. Ah oui, Marconis est mort il y a 5 ans. Waouh. Wow. Wow. Et en gros, oui, ils avaient arrêté de toute façon. Les années 90, il n'y avait plus grand-chose. Hein, Talk Talk. Après, il y avait eu des reprises. Such a Shame avait été reprise. Et puis It's My Life par No Doubt.
Tout voilà. à fait.
Et toi, la chanson que tu as choisie, c'est une chanson qui s'appelle Life's What You Make It. La vie est ce que l'on en fait. Pourquoi celle-là ?
Parce que c'est vrai qu'elle est moins connue, j'ai entendu quand même de temps en temps à la radio aussi, mais elle est moins souvent passée que It's My Life et Such a Shame, et moi je pense que c'est Such a Shame de ne pas connaître celle-là, parce que moi, pour moi elle est très motivante, elle est très, enfin voilà, elle me donne la pêche, je la trouve dynamique et tout, les riffs de guitare sont vraiment à tomber par terre, non, j'aime bien, j'aime beaucoup.
Voilà, la pop anglaise, la new wave et tout plein de bons souvenirs, même pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque. Voilà, on peut être nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue. Et heureusement pour ça qu'il nous reste la musique, hein, Elisa.
C'est ça, tout à fait. Heureusement qu'il y a la musique.
Merci beaucoup d'avoir pensé à nous, à toutes celles et tous ceux qui écoutent Décibel et qui vont se régaler avec ce titre de Talk Talk. Bonne soirée, Elisa, à bientôt.
À bientôt, Émilie. Salut.
C'est sur l'album The Color of Spring. On est au milieu des années 80 et Talk Talk est déjà un des groupes les plus connus de la New Wave, puisque juste avant l'album c'était It's My Life. Et voilà, Life's What You Make It. Très très bonne idée de notre auditrice programmatrice Elisa. Alors d'ailleurs, si vous voulez faire comme elle, oui, venez nous rejoindre. Notre adresse email, oui, nous envoie un email s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer un pigeon voyageur, hein, mais je suis pas sûre qu'il arrivera. C'est pour ça, l'email c'est plus sûr. Vous envoyez un message à Décibel avec un S at radiofrance.com. Dans le message, bah, vous nous dites quelle chanson vous avez envie de partager avec les auditrices et les auditeurs. Vous laissez votre numéro de téléphone et puis ensuite on vous contacte et on trouve ensemble un soir où ça vous arrange de passer à l'antenne, partager votre amour pour la musique. Décibel avec un S at radiofrance.com. Écrivez-nous, venez, on est bien.
Vous prenez régulièrement votre voiture pour des trajets personnels ou professionnels et le coffre n'est pas plein. Et si vous rendiez service à des consommateurs qui pourraient en profiter? Ce lundi, je vais vous dire comment gagner 100 euros en ne changeant presque rien à vos trajets.
Par ici, les économies avec Valère Coréard, tous les jours sur France Bleu ou francebleu.fr.
Mi figue, mi raisin.
Mais entièrement dévoué à mes vignes. Être engagé dans la culture de la vigne, c'est préserver sa qualité, sa singularité. Et j'imagine que c'est la même chose pour les amis qui cultivent des figues.
Merci à vous, agricultrices, agriculteurs et salariés du monde agricole, qui travaillez chaque jour à rendre meilleure la vie des Français. FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
Décibel, toute l'actu musicale est sur France Bleu.
Et les anniversaires aussi, puisqu'il est 8h05, c'est l'heure de la chanson anniversaire. Aujourd'hui, on célèbre les 40 ans de la mort d'un des plus grands cinéastes de la nouvelle vague. Il s'appelait François Truffaut, mort il y a 40 ans, donc jour pour jour. Un de ses films emblématiques, Jules et Jim, et une bande originale tout aussi emblématique et chantée par Jeanne Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange là. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, ah là là. Elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Jeanne Moreau, Le Tourbillon, une chanson signée Serge Rezvani. Vous ne l'aviez peut-être jamais entendu dans cette version-là, hein. C'est une orchestration qu'on a pu découvrir très longtemps, hein. C'était il y a 2 ans à peu près, un album hommage au grand amour de la vie de Rezvani. Elle s'appelait Lula et ça s'appelait Chanson pour Lula. Et dessus, donc en bonus, il y avait cette version du tourbillon avec cette